Odette ou la tolérance de Didier Mansuy. Imaginez un professeur de théâtre en jupon dispensant ses leçons à des adolescents et leur faisant répéter des pièces destinées à la sacro-sainte représentation de fin d'année scolaire. Imaginez aussi cette bande de jeunes, soucieux de bien faire, la plupart motivés, en proie au trac et soumis au feu roulant des ordres changeants, instructions contradictoires et sauts d'humeur imprévisibles de leur maîtresse d'art dramatique, Madame Odette. Prétendant régir ses leçons selon la plus stricte tradition morale, Odette tuait dans l'œuf tout rapprochement physique jugé douteux entre ses ados pleins de sève. À la vue d'un groupe mixte plutôt dissipé, aux mains un peu trop baladeuses, elle fonçait dans le tas. « De la tenue, bon sang, vous êtes ici, ni à Sodome ni à Gomorre! Combien de fois devrais-je le répéter ?» Certains lui faisaient la grimace et le pied de... Odette n'en avait cure. Elle sévissait avec la certitude vibrante de préserver cette jeune... sévissait avec la certitude vibrante de préserver... Les expériences physiques avaient confiné au fiasco. Bon prétexte pour casser du sucre sur le dos des mâles. Ceux-ci n'ont qu'une idée en tête. Après avoir faim de vous désirer, vous traîner dans la boue et vous détruire. Être un pantin dans leurs mains, merci! J'ai toujours refusé l'esclavage du macho, ce qui m'a permis de conserver la plus sainte faculté de jugement. S'étant confié fait rarissime à l'une de ses rares amies, Odette avait expliqué « Un goujat, voulant me fustiger, m'a traité un jour de quart de vierge !» Par allusion à ses « demi-vierges » best-sellers d'un vieil auteur oublié. « Ce quart de vierge, je le revendique encore, je me flatte de le conserver. Il me permet d'être clairvoyante au sujet de tant de jeunes niaises qui s'étant entièrement données à un homme, y ont perdu leur peu de personnalité et accepté de vivre dos courbé le plus détestable pot-au-feu qui soit. Ma chair a parfois vibré. Oui, je l'admets. Mais ma vigilance n'a cessé de régler mon trouble et de veiller à ce quart de virginité, soit, mais inaliénable. Je me connais, donc je suis. » En faisant de telles déclarations, Odette se raidissait et gagnait au moins 10 centimètres sur une taille plus que modeste, qu'elle croyait mettre en valeur par des talons Richelieu. Ceux qui connaissaient bien Odette Bray n'ignoraient pourtant pas « Je me connais ». Un fol amour conçu pour son premier professeur de diction, quinquagénaire blondasse, marié, père de 5 enfants, qui se rendait à peine compte de son existence. Puis un coup de foudre pour Jean Marais, lequel, auréolé par la tendresse d'un grand poète, avait fort mal répondu à sa flamme intempestive, entretenu pendant 30 ans avec une telle ferveur qu'à la mort de Jeannot, Odette avait jugé bon d'afficher un deuil outrancier durant des mois. Odette Bray donnait ses cours et ses conseils avec un flot de remarques tellement sibyllines qu'elle plongeait ses élèves dans un monde de perplexité. Il s'habituait, cependant, à la longue distance, puis son comportement, et ne protestait plus, non par approbation, mais besoin de tranquillité, afin de se consacrer mieux à leur art, en dehors d'aigres polémiques qui s'avéreraient vite scabreuses, jamais simples à gérer. Avec une Odette qui croyait dur comme fer au bien fondé de ses opinions, la contrariée équivalait à susciter le dragon qui dormait en elle. Ainsi, elle défiait quiconque de douter de son expérience de la scène et prétendait que si elle ne l'avait pas quitté à cause de partenaires aussi prétentieux que sots, elle eût été au sommet aujourd'hui. Bref, plutôt que de végéter dans cet univers dérisoire, certaine de n'être pas comprise à sa juste valeur, l'incomparable Odette avait préféré s'effacer afin de préserver son feu sacré. J'étais pourtant la meilleure, restait le leitmotiv de ses récriminations. Point n'était besoin de lui donner la réplique pour la faire embrayer sur sa lassitude à jouer la comédie avec des acteurs, à ses yeux, dépourvus de vocation et du moindre talent. Contre eux, une vindicte inavouée ne cessait de la faire marmonner. Je suis la mal-aimée, et mon luth constellé brille du soleil noir de la mélancolie. Avec quel dédain il toisait sa petite troupe au garde-à-vous devant elle, au lieu d'être ému par le front et le teint pur d'une aspirante Ophélie, loin de s'attendrir des maladresses d'un gros pâteau, se croyant appelé à camper le site ou Lorenzaccio, dédaignant aussi d'encourager une néophyte qui se voulait tragédienne et roulait des yeux de batracien, Odette ne cessait de les tancer pour leur manque de maintien et leur trou de mémoire. Un soir, s'entendant traiter de pie-grièche par un garçon du cours, elle fit face d'un bloc. « Pie, peut-être, impudent, puisque je picore dans les trésors du théâtre pour que vous en transmettiez les miettes, mais grièche, grièche, vous-même, jeune... insolent. » Odette fut si convaincante dans cette attaque qu'il y eut quelques applaudissements dans son auditoire. Naturellement maussade, elle cultivait sa naturelle mauvaise grâce comme une sorte d'aristocratique supériorité. Seule, la dîme que versaient chaque mois ses élèves en échange de sa science infuse, pensait-elle, parvenait à lui tirer l'approbation d'un demi-sourire. Tous étaient rejetons de bourgeois ou de commerçants fortunés, et elle tenait pour principe qu'ils devaient payer la balourdise de leur progéniture. En échange, elle invitait les familles à une représentation de fin d'année, où elle se montrait pont, et inspirée, de façon à emboucher un coin à ses ploucs. Ainsi, en quête d'ovation, et comme en bouquet de ce gala, Odette récitait et mimait le songe d'Athalie sous des voiles achetés chez quelque revendeuse à la toilette. Inégalable, c'était l'opinion du père d'Odette, ex-librettiste connu, qui n'avait cessé de se ruiner pour entretenir théâtreuses, danseuses et mannequins sur leur tour. Le restant de son avoir était passé dans l'achat au nom de sa fille de ce vaste premier étage au fond de Montparnasse qu'elle appelait l'auditorium. Odette, sa seule faiblesse, faisait grand cas de ce père